Time I tried an open mic, I knew.
Bill! Chose première, chose due.
Oh que oui!
Hier, Pascal CV était de retour de son ascension du Kilimanjaro, de retour en onde pour la première fois depuis 3 semaines. Puis on a comme terminé la discussion sur un genre de quête interrompu parce qu'une demi-heure, on s'est rendu compte que ça passait franchement vite.
Très vite.
Fait qu'on s'est dit, ben regarde, on fout tout en l'air vendredi. Puis on recommence.
On s'envoie en l'air, comme on dit. Hein?
On recommence. Pascal!
Salut!
Donc, pour ceux qui ont manqué la première partie de tout ton récit là, de départ sur ce qui touche le Kilimanjaro, ton voyage du côté de l'Afrique, c'est sur le blvd.fm, c'est aussi sur la chaîne YouTube. Dans la playlist Open Mic, vous avez carrément l'entrevue. C'est drôle à dire de même à la chronique, l'entrevue.
Très étrange, moment, j'ai été interviewée par vous autres.
Le moment complet, tiens. Puis aujourd'hui, on s'est dit, il reste un bon bout à faire. T'sais, on n'a pas parlé du avant-voyage, ta préparation physique, mentale, les bagages. On n'a pas parlé du sommet. Tu m'as dit, tu as pris la peine de me dire, c'est à part le sommet. On n'a pas parlé de ça. Des répercussions en revenant ici, tu as les bouts de doigts tout croûtés, tout sèches.
Ah, mais ça, c'est...
Tu as encore ces médicaments.
Mais c'est vrai.
Fait que j'ai comme envie qu'on... Peut-être reprenne sur ta préparation.
Ouais.
Parce que tu t'es entraîné pas mal dans les mois avant cette montée-là, veux pas, tu sais, faut être en shape, là. Vous faites ça à longueur de journée. Qu'est-ce que t'as fait? Comment ça s'est passé? Puis surtout, est-ce que t'étais prête finalement?
En fait, au moment où j'ai dit oui, je me suis dit je vais le faire, puis je vais le faire au mieux que je peux le faire. Mais c'était la première fois que je faisais un engagement comme ça envers moi-même, de me dire « Hey, attends, là, c'est pas... je me dis je vais faire un 5 km de course, puis je peux abandonner, puis c'est pas grave, il n'y a pas de pression. » Je commençais à le dire, puis je me suis surtout engagée pour une super belle cause, qui est la Fondation Cerveau.
Oui.
On allait là en gang pour ramasser des fonds pour tout ce qui est santé mentale puis maladie du cerveau. Fait que, je me suis dit, bon, pas je niaise avec ça, mais qui est l'expert d'une montée du Kilimanjaro à Québec?
Ben, c'est ça l'affaire, parce que toi et Joannie Fortin, du côté oui. de Weekend, vous vous êtes vraiment pas entraînés de la même façon. Fait que moi, j'avais hâte de voir, justement, si ça menait au même résultat, s'il faut que tu travailles sur tes faiblesses de base, mm-hmm. ou s'il y a des choses spécifiques quand tu sais que tu vas monter une montagne de même.
Moi, je pense qu'en plus, on avait des défis qui étaient différents. Je ne veux pas parler pour elle, mais mettons, dans l'analyse personnelle, moi, je savais que mon mental, c'était fait. Je savais aussi que Joannie sortait d'une passe où sa santé, elle a été un petit peu éclopée. Là. C'est une femme très forte, une femme extrêmement en forme. Mais côté mental, je sais qu'elle a eu cet obstacle-là là, en termes de reprendre sa santé en main dans la dernière année. Que moi, je visais plus un peu à être à son niveau physique. Là. Mm-hmm. Une fille qui, depuis des années, s'entraîne, je savais que j'allais pas me rendre là. J'étais en bonne forme, mais oui, il faut miser, je pense, sur la musculature, puis il faut complètement oublier de quoi on va avoir l'air physiquement dans un entraînement comme ça. Est-ce que tu vas prendre l'hypertrophie? Est-ce que tu vas avoir un meilleur cardio? Est-ce que il faut pas que tu te mettes de barrières. Donc, si je prenais de l'hypertrophie, c'est ça qu'il fallait, c'est pas grave, on s'en a... Tu sais, le look ne compte pas, c'est vraiment la santé de ton corps et ton corps. Puis ça, c'est une des choses qu'on m'a fait comprendre le plus rapidement possible. En fait, j'ai été extrêmement choyée, rapidement gabardie du Tonic Gym, oui. qui est un partenaire ici, m'a écrit, me dit, hey, nous autres, on va te prendre en charge.
Tu as eu le meilleur entraîneur, on
Javier.
A le même, là. Il est
Javier
bon,
Riviera,
hein?
C'est rendu un personnage de un colombien, tu sais, c'est que...
Ouais.
Mais c'est un gars qui est extrêmement qualifié là-dedans.
Ah, oui.
Puis il avait déjà suivi quelqu'un qui avait fait le Kilimanjaro. Donc, il savait plein de choses, plein de technicalités de... Puis il m'a fait comprendre très rapidement que ça ne sera pas nécessairement des changements qui vont être physiques dans le sens où je ne deviendrai pas découpé dans ce qu'on va faire pendant un an, mais je vais avoir un corps très fort. Et là, je parle CORE.
Oui.
Tout ce qui est abdos en superficie, on oublie parce que les gens qui vont avoir des abdominaux découpés et autres.
Comme moi.
Comme Max, par exemple.
Oui, tout le monde le sait.
Pour certains, c'est plus superficiel versus aller travailler derrière oui. cette première
en
couche-là.
Profondeur,
en profondeur. Fait que là, les fameux handstands que je trouvais si douchebag, puis tout ça, je me suis ramassée très vite à les tester pour voir jusqu'à quel point je suis capable de supporter mon corps, jusqu'à quel point mes jambes sont fortes, à quel point ma posture est bonne aussi parce qu'on avait un 30 litres sur le dos. Donc, ça a été ça. Et majoritairement, clairement aussi, à chaque entraînement, je travaillais ce qu'on ne travaille jamais au quotidien, soit l'arrière de mes jambes pour la descente. Donc, du tapis roulant à l'envers et tout ça. Fallait pas que je me décourage. Ravière a joué un rôle extraordinaire à l'équipe du Tonic Gym aussi. J'y allais deux fois par semaine minimum avec un entraînement d'une heure. Mais à ça, j'annexais plein de choses qui allaient me faire continuer à bouger. Donc, marcher tous les jours depuis un an. Je me levais plus tôt le matin. J'allais faire ma revue de presse avec mes écouteurs, avec mon cellulaire, mais j'allais marcher près de chez moi, 2 à 3 kilomètres. Ensuite, tout ce que je pouvais faire à pied, je le faisais. Donc, mon épicerie, je partais avec mon sac, j'allais le faire.
T'as vécu ma vie, en gros, ouais, Pascal.
Oui, des escaliers au Chute Montmorency. Et ça, je pense que si vous avez une envie de faire une montagne, là, les escaliers, là,
c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est vraiment très fort pour un entraînement.
J'en doute pas, pas en tout. Qu'est-ce que... En fait, quand t'es arrivé là-bas, quand est-ce que t'as réalisé que tu le faisais? Parce que j'ai le sentiment que tu prends l'avion, tu te rends là-bas, tu t'en vas en voyage, tu t'es préparé, tout ça est fait, là. Mais y a-tu un moment où tu te souviens que tu t'es dit « Oh, boy, OK, là. »
C'est vrai.
C'est vrai, on le fait, là.
J'ai jamais réalisé jusqu'à temps que la première journée officielle commence. Ça veut dire on est rendu en Tanzanie, on a vu le mont Kilimanjaro de nos yeux, on comprend que notre bagage est fait, on a tout fait ça, OK? La première journée fait 34 degrés.
Urk.
On part avec des shorts, une camisole, semi-découvert, bien crémé, avec du stuff à mouches, pas à peu près en plus, parce que, bon, malaria étant du côté de l'Afrique avec les moustiques. Et en l'espace de 30 minutes, le 34 devient un 5 degrés avec la grêle entre le pois chiche et le couscous israélien qui nous tombe dessus et qui nous blesse. Il y en a un qui avait les oreilles presque en sang.
Pas de bon sens.
Parce que... On s'était fait dire, ah, oh, vous allez arriver, puis la première étape, c'est la rainforest. Oh, mon Dieu! Avec des singes, avec une humidité.
Oui.
Avec ça, tu dis, waouh, ça va être donc bien magnifique. Mais la rainforest du début du Kilimanjaro, c'était juste pour nous dire, bonjour, vous êtes bien arrivés et attelez-vous, ça commence.
Arrête!
En l'espace d'une minute, nos accompagnateurs nous ont dit « Fouillez dans votre sac immédiatement. Si vous avez votre kit de pluie, c'est le temps de le mettre. » Là, moi, je négligeais un peu ça en me disant « Fait 34. Monsieur, il y a de la pluie. Je suis mieux de ne pas mouiller mon stock pour la première journée. Puis de faire sécher ma petite short, ma petite camisole. » Non, non. C'est qu'avec le climat, ben, t'arrives à 5 degrés, donc t'es mieux de mettre ton stock de pluie parce que en haut, ceux qui n'avaient pas leurs choses, il y en a un qui s'est pogné un poncho tout croche, puis écoute, et c'était frais au point où tu peux prendre un genre de choc hypothermique, là. C'est un changement de température extrême. On est arrivé au premier camp, il y avait de la grêle partout, par terre. Faisait froid comme en novembre, fin novembre. Puis là, tu te dis, OK, t'as pas de toilette pour te réchauffer dans le sens où un endroit qui est fermé, la toilette, c'est une tente. T'as pas de cuisine où te réchauffer, t'as pas de maison. Tout ce que t'as, c'est ta tente et ton stock.
Puis t'as là, pas d'intérieur.
T'as rien. Là. On s'est... fabriquer des cordes à linge X, Y, Z, là, tout croche, là, pour essayer de faire sécher du linge, mais à l'humidité. Puis on s'est dit, OK, à partir de maintenant, c'est vrai. À partir de maintenant, on espère qu'il n'y aura pas de la pluie comme ça tout le long parce que tes vêtements, après, ce n'est juste qu'une boule d'humidité dans ton sac. Puis vous comprenez que pour la suite, c'est bien complexe. Mais écoute, en l'espace de 30 minutes, c'était de la grêle puis de l'herbe à poux. Il y en a 5 qui ont pogné de l'herbe à poux ses jambes.
Arrête, arrête, quoi.
Moi, je riais. Ben, je me suis dit, OK, là, c'est le début. Mais d'autres anticipaient déjà que ça allait peut-être ça tout le long.
Oui, c'est ça. Ça devient un peu inquiétant, on dirait quasiment. Là. Tu parlais de ton poncho, là, ton,
oui.
Comment on appelle ça, couvre-pluie.
Ben, moi, j'avais un kit de pluie.
Un kit de pluie.
Très technique.
Tout ça. Là.
Ouais.
Qu'est-ce que tu mets dans ton bagage?
C'est ça. À ne jamais négliger.
Est-ce qu'ils vous disent quoi mettre?
Ouais, on a une semi-liste, OK?
OK.
Suivez-la. Moi, je salue Rémi Gagnon, courtier immobilier ici à Québec, un gars exceptionnel qui s'est dit « je fais du sport dans la vie, puis il y a une belle liste qui m'est donnée, mais je vais y aller à peu près. » Je pense que lui a trouvé ça un peu plus difficile puis au départ parce qu'il y avait un grand poncho puis s'est dit « OK, j'ai pas de pantalon de pluie, j'ai rien. » Puis là, on nous parlait de Gore-Tex, c'est vraiment des vêtements techniques pour faire ce genre de montée-là. Faut que ça soit mince, faut que ça sèche vite, faut que ça coupe le vent.
C'est souvent du multicouche, j'imagine,
c'est
aussi que vous
faites. C'est du gros multicouche, ouais. Parce que ça change d'une minute à l'autre en termes de température. Donc, je pense que dans les priorités, là, c'est ça. Dans le bagage, il faut que ça rentre dans un 100 litres qui ressemble à une grosse poche de hockey. On appelle ça le duffel bag. C'est lui qui va nous suivre tout au long de l'aventure, mais on a aussi un 30 litres sur notre dos, un sac à dos là, d'aventure, comme n'importe qui peut partir en voyage. Puis... Et dans ce sac-là d'aventure, à chaque jour, tu mets ce que tu penses que tu vas avoir besoin. Des collations, tu vas mettre tes multicouches, un manteau, ton kit de pluie. Presque personne après l'a oublié puis l'a mis tout le temps dans son sac. Des mitaines si la température devient de plus en plus froide. Donc, tu l'ajustes au fur et à mesure, toujours avec ton eau nouvellement remplie chaque jour. Et dans ton duffel bag, tu fais des switches comme ça. Il y a aussi ton sac de couchage qui doit aller au moins à moins 18. Tu dois avoir un liner protecteur à l'intérieur de ton sac de couchage qui va t'amener une chaleur supplémentaire qui va couper l'humidité. Alors, c'est toutes des technicalités comme ça, mais il faut que ça rentre, il faut que ça soit compact, il faut que ça soit aéré et faut que tu aies le strict minimum, mais en même temps, il faut que tu n'oublies rien. Il n'y a rien à négliger parce que si tu as un seul kit de laine de Mirino en termes de combine, bien rendu la 7e ou la 8e journée, elle est humide. Est humide, cette combine-là. Tu vas prendre le froid trop rapidement. Il y a des vêtements que tu dois vraiment mettre de côté pour le sommet.
Ça doit te coûter une beurrée, mine de rien, là, parce que...
Des milliers de dollars. Je vais être très honnête. Là. Ça m'a coûté des milliers de dollars, puis j'ai une chance inouïe. Il y a une entreprise ici à Québec qui me dit, hey, nous autres, on va te donner du gear pour, mettons, X centaines de dollars. Mais ça m'a quand même coûté des milliers de dollars supplémentaires, puis je suis une fille qui en fait du plein air. Ça va me rester toute ma vie. J'ai vraiment eu une pensée à un moment donné dans mon sac de couchage en me disant, même si j'ai trouvé que ça me coûtait cher, ça valait le coup.
Mais c'est sûr.
C'est ton seul confort.
Oui, c'est ça. Parce que tu sais, tu parles de laine de mérino, mais mettons que tu achètes du bon stock de qualité, déjà juste un chandail en laine de mérino, tu peux atteindre le 100$.
Est-ce que ton sous-vêtement du bas te coûte 70$?
Non, mais tu sais,
t'en as un.
C'est ça, c'est ridicule. Là.
Ça va vite.
Hey, mon Dieu.
Mais c'est de la qualité pour toujours, puis je le répète, c'est
là,
ton
seul confort.
Tu peux
pas laver ton linge?
Non, mais. Tu peux trouver des solutions. Moi, j'avais apporté...
Des pads, genre?
En cas de doute, gaz au bout. J'avais apporté des petits sachets de Tide liquide. Ça se vend comme un petit shampoing ou autre.
T'es en feuilles aussi.
T'es en feuilles, effectivement. Fait que je m'étais apporté ça au cas pour faire 2-3 lavages si j'en avais besoin. Officiellement, j'avais assez de stock. Puis, tu sais, rendu sur la montagne, là, on dirait qu'on regarde pas comment les autres sont habillés. Fait que oui... Des jours, tu vas avoir la même chose que tu as porté l'avant-veille ou la veille.
Mais ça, on s'en fout un peu. Moi, je parle plus de bobettes, là. C'est dans le sens.
Ah, j'en avais assez pour chaque jour.
T'en avais
quand j'ai
ça.
Vu sur la liste 3 à 4 paires.
Non, c'est ça. Moi, j'en apporte très peu.
Ça va être 7-8.
Parce que, tu sais, là, mais la femme, ils sont différents à ce niveau-là.
Ah,
hein,
moi, c'est chaque jour, puis la lingette, puis. Ouais.
Tout le kit.
Tout ce que tu peux. Et tu vas chercher le confort comme tu le peux, hein.
Ta première nuit.
Oui.
T'as frappé un mur?
Ils ont frappé un mur.
Ça, c'était-tu dans Rainforest? Là,
on vient de traverser la Rainforest. T'as la grêle sur la tête, on arrive, on est mouillé, mais pas mouillé. Non, c'est la chute Niagara qui nous a tombé sur la tête. Là. Fait qu'on arrive, puis on dégouline, et on voit le camp érigé, puis c'est un grand camp avec plein de monde.
Pourquoi ça s'appelle comme ça, cette forêt-là?
Alors, c'est un grand camp avec plein de monde.
Excuse, Pascal, je l'ai pas choisi.
Puis, c'est parce que tu dis, il y a plus que finalement... que d'être en camping. Il y a le fait que tout ce qui est autour, tu vas l'entendre. Alors, si tu n'as pas de bouchon, bonne chance pour dormir. Il y a le fait que l'altitude commence à se faire ressentir. Alors, si tu as un problème X, un mal de tête qui commence ou quoi que ce soit, ça part dans la nuit. Puis, il y a le fait que c'est une drill militaire. Là. Le soir, on se couchait à 8h15, 8h30, le plus tôt possible, aussitôt qu'on avait terminé de manger. Puis, à 6h, on recommençait pour des heures et des heures de randonnée là, quotidienne. Donc, la première nuit, je pense que tout le monde a pris un peu son pouls là, en se disant « OK, OK », parce qu'il y en a qui n'ont pas dormi. Il y en a qui ont assurément eu froid parce que leur stock n'était pas assez chaud. Il y en a qui étaient détrempés. Il y en a pour qui la météo avait joué mentalement. Puis, il y en a aussi qui c'était leur première expérience de camping, littéralement. Puis là, ils se disaient, OK, là, il n'y a pas de chance, à moins que j'arrête l'aventure, d'avoir un autre confort que celui que je vais me trouver dans mon petit sleeping. Momie, bien serrée, avec juste le nez qui dépasse des fois pour aller chercher un peu d'air pendant la nuit parce que tu veux garder ton corps au chaud. Puis t'entends des singes. Les singes, ce soir-là, ils jouaient avec des noix de coco, c'est ce qu'on s'est fait dire. T'entends tous les porteurs, tout ce qui grouille autour, d'autres équipes. Donc, il faut que tu sois capable de dormir.
Exemple.
Ben oui, moi, c'est pour ça que j'ai dit, il y en a certains qui... Moi, le moment où j'ai pris mon mur en termes de sommeil, c'est quand j'arrivais pas à dormir. Ça m'a pris 3-4 jours là, d'avoir une bonne nuit. Puis honnêtement, il fallait que je m'aide avec des gravoles. Là. Il y a deux soirs, je me suis dit, je me prends deux gravoles
pour te fesser
avant
un peu,
de dormir. Ouais, pour me fesser puis me réveiller le lendemain parce que tu as besoin de ton énergie. T'sais,
vous
tout
montez
est tellement
pendant
calculé.
Quoi, 10 heures?
Ça dépend des jours. Il y en a des fois qu'on va faire un 4 heures, d'autres, on va faire un 12 heures. Fait que c'est entre 4 et 12 heures selon les jours. Ils vont aller les découper d'une manière très intelligente pour que ton corps s'habitue à l'altitude. Donc, il y a des journées que tu vas faire bon, une bonne randonnée. La randonnée, ça va être une plaine avec des paysages à perte de vue, genre style Far West, looky look. Tu te promènes là-dedans. Après ça, tu vas arriver dans une forêt semi. Après, tu vas arriver dans des roches, des rocheuses. D'autres, ça va être des murs de roches où tu vas être un peu une chèvre de montagne. Mais il y a des paliers aussi à respecter. Alors, il y a une journée où on faisait peut-être un 6 heures de randonnée pour très peu de kilomètres parce qu'on nous disait tout le temps polé-polé. Faut que tu ailles pas vite pour t'habituer à aller pas vite au sommet. Et surtout pour avoir l'habitude de l'altitude. Si tu vas très vite au début, puis ça, c'est le conseil que j'ai eu de multiples aventuriers là, qui ont fait, entre autres, le camp de base de l'Everest et tout ça. Ils m'ont dit, Pascal, t'es en forme, tu vas vouloir, parce que ça va être très facile.
Naturel d'avancer vite.
Naturel, oui. Avancer vite. C'est la pire chose que tu peux faire au début, surtout au début, parce que c'est là où ton corps apprend à gérer l'altitude.
Toi, tu t'en rends pas compte que tu es en train de te tirer dans le pied. Là.
Exactement. Puis il y en a qui vont aller vite, qui vont vouloir être en avant, pas parce qu'ils sont prétentieux, parce qu'ils se disent, voyons, ça va bien.
Mais moi, quand je vais faire une randonnée, j'avance. C'est ça. Ça me tape ses nerfs, le monde qui ralentit en arrière, j'avance.
Exact. Nous, on s'entraînait au Mont-Saint-Anne, on est allé à l'Acropole des Draveurs avec François Guitivière, je donnais des trucs, on avançait, tu sais. Puis là, il faut vraiment que tu te souviennes que chaque pas que tu fais permet à ton corps de s'habituer à l'altitude. Et il y en a qui vont lâcher jour 5, 6 parce qu'ils ont donné un trop gros coup à leur corps. Alors, polé-polé, c'est ce qu'on a entendu le plus. Et il nous rappelle qu'il faut aller lentement. Donc, peu de kilomètres pour plusieurs heures de randonnée. Fait que ça, c'était ça. Puis il y a des paliers, justement, on faisait un 6 heures de randonnée. On arrivait, on dînait ou on soupait, ça dépendait des jours. Puis on disait, OK, parfait, on repart 45 minutes. On monte jusqu'à 4500 mètres, par exemple. On reste là une heure, une demi-heure et on redescend.
Vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi quand vous arrêtiez? Vous
dans les pauses? Les pauses étaient courtes. Puis l'effet de groupe est super important là-dedans parce que si tout le monde engage un retard, tu retardes pour une demi-heure, une heure finalement.
Fait que vous vous suivez le plus possible.
Le plus possible. On se respecte beaucoup. Au sommet, je vous dirais qu'on a eu des petits groupes aussi à certains moments. Là. Mais il y a assurément la contrainte de dire si on part dans 10, c'est pas dans 11, c'est pas dans 12. Fait que si t'entends ton guide te dire dans 10, on repart, dans 10, on repart. C'est tes besoins primaires. Alors, t'arrives à une pause, si t'as envie de pipi, c'est ça. C'est pas ton blabla avec ton collègue. C'est ton pipi, t'arrives sur la plaine. Ça me faisait rire à chaque fois. Il dit, alors, nous sommes arrivés dans les bushrooms. À gauche, femme. À droite, homme. Mais c'est une plaine. Fait que trouve-toi un buisson, trouve-toi une roche, puis arrange-toi.
Ah, c'est bon, ça.
Sinon, oublie ta pudeur.
T'es dans le camping, là, c'est ça.
Puis plus que ça, parce que t'es en camping à air ouverte. J'appellerais ça un club nudiste.
Ah, c'est bon.
Okay. On est là-dedans, tu manges une collation, la protéine, un sucre, tu bois de l'eau. Je vous conseille à tous d'avoir cette pochette d'eau-là qui est attachée après ton sac avec un tuyau parce que tu oublies, puis avec l'altitude, des fois, tu as une perte d'appétit puis tu te rends pas compte que tu as soif. Mais l'hydratation, c'est la clé. Hein. C'est vraiment la clé, un, pour faire tes besoins, deux, pour avoir quelque chose qui se passe bien dans ton corps, puis certainement t'hydrater pour la suite des choses.
C'est faciliter la vie le plus possible avec cet équipement-là pour pas que tu aies à trop réfléchir.
Oui, à chercher ta bouteille. Ouais. Parce que quand tu avances, puis c'est pas l'heure de la pause, c'est pas l'heure de demander de prendre une pause. Là. C'est l'heure de demander au pire à ton collègue à côté qui tient ces deux bâtons, peux-tu les mettre sous ton bras, me donner ma bouteille tout en marchant dans les roches pour essayer de prendre une gorgée d'eau.
Non, ça marche pas.
La préparation avant, elle est primordiale, elle est essentielle.
Ça a l'air vraiment de base comme question, mais je me dis, tu sais, les randonnées de 12 heures que tu fais, là, ça se passe comment? C'est quoi l'ambiance?
Ma question préférée, je pense.
Non, mais jasez-vous tout le long? Ou comme, tu sais, des fois,
personne
on commence à composter. Pour vrai?
Ouais. C'est une de mes questions préférées. Merci de la poser.
Tu sais, non, mais je me dis, peut-être qu'il y a des gros bouts, c'est silence. Peut-être que vous... Tu sais, je me demande l'ambiance, elle est comment?
Tu sais, tout le monde est différent. Fait qu'il y en a qui ont besoin de parler. Il y en a qui ont besoin de passer le temps. Il y en a qui ont besoin d'être dans leur tête. Il y en a qui... Moi, je pensais sincèrement là, que j'allais aller écouter ma musique. J'avais mes AirPods. Je me dis, je vais faire une grande méditation. C'est du temps pour moi. J'en ai pas beaucoup dans la vie.
Comme
ça
quand
va
tu fais
vite.
Compostelle.
Ah, oh, c'était un Compostelle. Oui, dans ma tête. J'ai l'impression que les randonnées de 12 heures passaient en une heure et demie. Parce que tu arrives dans des endroits où les paysages, tu n'as jamais vu ça de ta vie. Tout est à apprendre, tout est nouveau. Tu te lèves le matin puis tu te dis « Hey, je suis pas pressée. Tout ce que j'ai à faire, c'est de marcher.
Oui. »
Puis le truc ultime, c'est de jamais penser à la destination. Je comprends que le sommet, tu dis « Je veux l'atteindre. »
il doit paraître loin.
Mais pense tout le pas temps. À pas à ce que tu es en train de faire. Ah, moi, je suis en train de mettre mon pied gauche devant mon pied droit, puis j'ai du fun avec une gang.
C'est beau.
Ouais, mais c'est sûr que nous autres, on se connaissait pas un an avant, fait qu'on avait plein de choses à se radoter. Au début de la randonnée, tu vois que les gens parlaient plus. Plus on avançait, plus on manquait d'air, d'oxygène, moins on parlait. Puis il y a quelque chose d'expérimental en termes de groupe qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, c'est un peu comment on était avant de partir. Moi, je sais que j'ai besoin de mes moments de solitude dans la vie. Puis surtout qu'avec l'asthme, il y a un moment où je respire juste par le nez. Puis si je me mets à respirer par la bouche, je recommence à zéro mon contrôle d'air. Ouais. Fait que j'avais dit, si vous me parlez, puis que vous voyez, je vous réponds pas, c'est pas de la méchanceté, c'est que je peux pas vous répondre. Fait que tout le monde avait mis un peu, c'était quoi, ces clauses.
C'est limite.
Ouais.
Ah, c'est bon,
on s'est beaucoup respecté là-dedans. Mais ça menait, oui, à l'introspection, mais juste à l'appréciation. Je n'ai jamais, de toute ma vie, autant pris le temps d'apprécier ce qu'il y avait autour de moi puis la chance que j'avais.
Là, il est 11h26, hein? Oui, ça va encore trop vite. Le sommet.
Oui, il faut parler du sommet, oui, puis après, sommet. Au pire, on... le sommet.
Le sommet, c'est une expérience en soi. Toute la semaine, ça a bien été. J'avais pas de courbatures. Pour la majorité des gens, c'était ça aussi. Il y en a qui ont pensé lâcher la deuxième journée. Ils vont se reconnaître parce que c'était beaucoup d'inconfort puis c'était beaucoup tout en même temps. Le sommet. Alors, la sixième journée, tu as ta journée de randonnée dans le corps. Tu arrives à ton camp et on te dit, parfait, vous avez une heure de lousse. C'est la première fois qu'on a une heure de lousse. On n'avait jamais eu de lousse de tout notre voyage. Tu fais quoi? Ben, tu ramasses tes bagages, tu essaies de voir comment tu peux t'organiser, tu prends tes vitals avec la gang, donc ils regardent ton pourcentage d'oxygène. Il y a une fille dans notre groupe qui était à 60%. Tu passes pas, tu peux pas faire le sommet. Fait qu'elle est venue stressée, puis elle s'est dit, je croise les doigts que mon corps s'est habitué, s'est acclimaté, parce que sinon son aventure s'arrêtait là. Là, ça nous a gelé, là.
Ah, tu dois capoter.
Elle était vraiment stressée parce que c'est une femme qui est en forme, puis ça va bien. Mais là, tu peux pas aller contre ce que tes
t'as
tests
pas le contrôle.
Médicaux... Non,
c'est
un laisser-aller, là.
Cochonnerie.
Fait que finalement, heureusement, dans la nuit, ça s'est replacé. Son oxygène s'est replacé aussi. Elle a pu le faire avec nous. Donc, on arrive, on a cette heure-là, puis rapidement, t'es déjà rendu à l'heure du souper. Et c'est la première fois qu'on a vécu un stress commun parce que ça avait tellement bien été pendant la semaine que lorsqu'on a eu le briefing, on en avait souvent pour le lendemain, mettez ça dans votre sac, etc. Là, on commençait à nous dire, ça va être difficile. Alors, c'est au moins 8 heures de montée. Les 6 premières heures, c'est un genre d'escalade. Là, t'es sur des parois rocheuses, c'est rochant pour le muscle. T'es dans le noir, la température va commencer à baisser. Tu vas peut-être atteindre un moins 20, moins 25. Faut rester à la queue leu-leu. On va vous donner des numéros pour pas vous perdre dans la nuit. C'est la première fois qu'on avait un porteur, chacun qui était attitré à notre santé, à notre bien-être, à savoir si on allait bien.
Tu te demandes qu'est-ce que ça va être.
Là, j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, ouais, ben, je pense que c'est la première fois du voyage que j'ai un stress. Je peux, tu sais, c'était tellement solennel que tu dis, OK, l'impression, on te dit, va dormir une heure. Oublie ça!
Mais là, t'entends que tu te voyons!
Il y a pas grand monde qui a dormi.
T'entends qui tourne!
À 10h le soir, donc 22h, on vient à la tente.
Parce que vous le faites de nuit, ça, là.
On part de nuit. Après une grosse journée de randonnée où on a soupé pour la dernière fois, il est autour de 5h, donc 17h. Puis après ça, on a ce briefing-là. On dort pas. On est tout prêt, mais en même temps un peu stressé parce que là, on a-tu assez de multicouches? On a-tu, tu sais, toute notre gear était très individuelle. Donc, est-ce qu'on était prêt à ça? Puis gérer notre laisser-aller mental aussi par rapport à ça.
Hey, mais il me semble que t'aides pas le corps, Pascal. Si tu fais ta journée de randonnée, tu dors pas même, tu repars de nuit.
Non, c'est pas moi qui ai fait le plan, hein, mais je pense que c'est pour pas rester en haute altitude trop longtemps parce que passer 5000 mètres d'altitude, c'est considéré comme une altitude extrême. Donc, il faut que ça aille vite. Puis c'est là où que le vrai défi commence. Tout le monde pensait être prêt pour le sommet. On est ressorti de là en disant « on s'est fait rincer ». C'était une sapristi de rince là, qu'on a vécu. Ouais. Donc, à 22h, on sort, on mange 2-3 biscottes, du porridge. Et c'est pas le temps de niaiser, c'est le cas de le dire, là, on part. Ils font une prière, encore plus stressant, mais magnifique moment, mais un peu stressant. Superbe prière. Puis là, ils disent « t'as-tu tes pompes d'asthme? » Donne ça à ton porteur, puis ça part. On a toute notre lampe frontale, on part à la queue leu-leu, on respecte comme au canjo notre numéro de ligne. Donc, les gens qui vont un peu plus lentement, qui ont besoin d'un rythme plus lent, sont au devant. C'est eux qui vont dicter le rythme du sommet pour que tout le monde se respecte et se suive.
Oh, ouais.
Jusqu'au dernier. Les gens qui ont peut-être de l'asthme, des trucs comme ça, ils nous mettent au centre. Alors, s'il y a quoi que ce soit, on est capable de dire en avant et en arrière qu'on a un problème de santé. Et ensuite, tu as ceux qui n'ont pas de problème de santé puis qui, jusqu'à maintenant, allaient très, très bien, qui finissent la queue. Donc, on avance comme ça, pas à pas, et je vous dirais que c'est un sentiment d'être sur Mars, d'être sur la Lune. Tous les pas sont un peu lourds. Et là, bam, l'altitude se met à frapper. Tous ceux qui n'ont jamais eu de maux de tête commencent à en avoir tellement que la lampe frontale sur ta tête, là, tu l'enlèves. Elle vient tellement serrée autour de ta tête. Mais il n'y a personne qui te l'a serrée, là. Mais ça vient tellement serrée autour de ta tête, tu l'enlèves. Aussitôt que tu as les premiers présages d'une altitude qui va t'affecter, Tylenol, Aleve, tout ce que tu veux, on continue. Et là, là, on est dans la noirceur totale. Il y a quelque chose de magnifique parce que tu vois les lampes frontales puis les gens qui montent la montagne à queue leu-leu, tu sais, dans la nuit, puis tu dis, hey, on s'en va vraiment l'atteindre le sommet. Mais il y a aussi quelque chose de genre Rambo qui prend possession de ton corps parce que l'altitude que ça fait, puis je trouve que c'est très bien décrit comme ça, c'est d'être en état d'ébriété sans alcool. Alors, tu es pleinement consciente, tu sais que tu vas avoir des souvenirs, mais tu es blurry, c'est incroyable.
Un peu chaud d'ail.
Tu es un peu chaud d'ail sans être chaud d'ail. Mais
ça doit être euphorique un peu.
C'est un euphorisant parce que tout ce qui est autour de toi est exacerbé, mais surtout les porteurs là, qui nous accompagnent. Dites-vous, si on est 12, on est au moins 24, donc on est au moins 30 en train de monter en gang. Ils ont chanté pendant 6 heures de temps. Six heures de temps à chanter les chansons qu'on avait apprises pendant la semaine.
Pour vous encourager, pour
nous encourager, mais faire en sorte que notre cerveau capte la chanson avant une douleur, avant un inconfort et avant quoi que ce soit, pour être certain qu'on se concentre sur leur chant et non le reste. Mmh. C'était un exercice mental, c'était un outil mental qu'ils nous ont donné. C'est des Olympiens. Ces gars-là ne savent pas, mais ils gagneraient n'importe quel Jeux olympiques. Ils chantent, ils dansent, sont semi-habillés. On leur avait offert du stock, mais non, pas de problème. Il y en a qui n'ont pas de gants. Mais là, après 2-3 heures au froid, en montée comme ça dans la roche, tu sens que ton corps, il lâche pas, mais il est vraiment au ralenti. Donc, à chaque montée un peu plus abrupte, ils t'attendent, puis ils te swingent vers le haut. T'sais. Moi, j'avais décidé de garder mon sac. Mon sac à dos, on était sur 12, peut-être un genre de 5-6 à l'avoir conservé. En même temps, il me réchauffait. Donc, j'étais contente, puis j'avais mon eau qui était là, puis je savais que mon sac n'allait pas servir longtemps parce qu'à un moment donné, ça glace. Fait qu'il faut tailler avec ta bouteille et tout ça. Puis, je me rappelle de des moments où t'arrives auprès d'une roche, puis toute la semaine, ils t'ont dit « Hakuna », puis toi, tu répétais « Matata ». Je me rappelle de faire qu'ils me fassent « Hakuna Matata ».
Oh boy!
Je te réponds, c'est top! Ce matin, avant de venir vous parler, j'ai éclaté de rire toute seule parce qu'il y a une affaire que j'ai compris. Ils me disaient tout le temps « Mambo ». Et moi, j'étais comme « Number 5 ». Ça voulait dire « Comment ça va? » J'ai catché ce matin.
Arrête.
Parce qu'il y a un des porteurs qui a écouté l'entrevue, qui parle français, qui m'a écrit, puis il a dit « Hey, Pascal, Mambo! » Puis je suis comme « Number 5! » Puis il dit « Je peux-tu savoir pourquoi tu nous répondais tout le temps ça? »
Oh, c'est drôle, ça!
J'ai compris ce matin que ça voulait dire « Comment ça va? » Moi, tout le long de la montée au sommet, j'ai les yeux semi-ouverts parce que je m'endormais en marchant. Puis je chantais « Mambo Number 5! » Puis il y avait une face d'incompréhension, mais OK.
Elle doit être correcte.
Je l'ai raide. Tu fais pas. J'entendais juste la chanson dans ma tête. Ils prennent beaucoup de temps, en fait, pour t'accompagner. Quand il y a des pauses, moi, c'est la chose qui me dérangeait le plus, là. Puis je me suis désorganisée une fois parce que la ligne s'est arrêtée avant une pause. Puis je m'excuse encore à Mel, mais étant en avant, puis moi, je voyais pas pourquoi on était en pause, puis le froid, il est tellement glacial que rapidement, il prend possession de ton corps. Tu sais, Joanie, notre collègue, là, elle a tellement eu froid, elle était sur la limite de l'hypothermie, qu'il y a un des guides qui a ouvert son manteau pour y mettre ses mains sur le chest pour qu'elle puisse se réchauffer. Parce qu'elle gelait, mais Tu sais, elle l'a dit, là, moi, elle dit, j'ai jamais été désorganisée de même dans ma vie. Là, ça m'envahissait. Le stress, là, qui m'arrive, quelque chose m'a envahie.
Panique, ben oui.
Oui, puis elle dit, j'ai jamais vécu ça. Puis c'est une athlète, là, cette fille-là. Tu sais, elle est très en forme. Puis là, là, tout lâchait chez elle. Fait qu'on a été capable de l'aider avec des gants supplémentaires et tout. Moi, la désorganisation que j'ai vécue, là, c'est quand la ligne s'est arrivée. Je me suis dit, hey, la pause est déjà difficile pour moi parce que j'essaie de bouger. Puis, tu sais, t'as pas beaucoup d'énergie, mais je veux pas avoir froid. Puis là, je vois en me tassant. Mel, en avant, elle tente d'ajuster sa lame frontale. Tu sais, quand je vous disais que ça faisait mal, puis... Mais là, je suis même, non, là. C'est pas vrai que ça fait 5 minutes, 6 minutes qu'on est arrêté pour une lame frontale. Mais je me rappelle d'un genre de colère que je vis pas dans la vie, qui s'empare, puis qui fait comme... Peux-tu enlever ta de lampe frontale qu'on
puis
continue?
Avancer, tabarnak!
Lynn, en avant de moi, qui dit... Pascal, est-ce que tout va bien? Parce qu'elle m'a jamais vu de même. Puis.
T'as répondu number five.
Maman, number five! Mais tu sais, ça vient que ton cerveau, à un moment donné, il y a des petits moments où il décloche. Puis tu veux pas être pris d'une colère, tu veux pas être pris d'un sentiment ou d'une émotion, mais tu ne te contrôles pas.
Mais non, mais c'est extrême comme
oui.
condition. Là.
Puis Joanie, elle a dit, moi, j'avais plus de filtre, j'avais plus rien, j'avais plus. Fait qu'on a continué la montée. Puis. Honnêtement, je suis très fière parce que ça a super bien été. Merci à je sais pas qui pour que l'altitude m'ait pas trop affectée. Vraiment, moi, je m'endormais en marchant. Il m'ouvrait les yeux, puis à un moment donné, il pensait que j'allais lâcher, mais j'étais toute là. Il te swing la tête par en arrière, il te met de la poudre dans la bouche, puis là, t'es comme, tu sais quoi? Il dit cocaine. C'était une farce. Mais toi, sur le coup, t'es pas là, là. Tu continues vraiment de la cocaïne? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est. Puis t'as à fond avalé avec un coke.
Mais voyons.
Fait que c'était un rush de sucre extrême qui va te. Réveiller parce que eux, tout ce qui
ils ont les trucs
tout ce qui restait c'était le number five là, ils étaient pas sûrs que j'étais toute là là. Ben j'ai continué d'avancer puis t'arrives à un moment à Stair Point et là on dit bravo, t'es au sommet, t'as réussi, t'es comme waouh, puis là tu sais le lever de soleil est venu mettons l'heure avant, là t'as un regain d'énergie, t'es aux prises avec une euphorie incroyable, c'est le plus beau paysage que t'as vu de ta vie, c'est des j'appelle ça des couvertures de nuages avec ouais. le lever de soleil au-dessus puis tu vois toute ta gang avec des yeux euphoriques de dire hey, il nous reste pas grand temps. Là. Dans 2 heures, on est sur le top, on le fait, puis ça fait 1 heure mmh. qu'on attend ça. Fait que là, on a les larmes aux yeux, puis il y a quelque chose qui s'empare de ton corps. Tu te mets à danser, à chanter, t'as du fun, puis tu sais qu'il te reste 2 heures assez difficile, merci. Puis quand t'arrives, c'est ça, à Stair Point, ils te félicitent, puis je suis comme, yes, mais la pancarte est en avant, là. Je la vois dans mes yeux. On peut-tu continuer? Puis il dit, il faut vraiment que tu prennes une pause. Je dis, non, on continue, là. Puis moi, je voulais pas avoir froid, je voulais continuer. Je la voyais. Il dit, oui, mais ça, c'est dans 45 minutes que tu arrives. Pardon?
Ah ouais.
Excuse-moi.
Pardon, tu vois la pancarte du top de la montagne, puis c'est 45 minutes, mais ta voix comme si... Honnêtement, je cherche... C'est 500 mètres, je sais
T'avais
pas, c'est combien.
J'avais l'impression qu'il était proche. Okay.
J'avais l'impression... Mais elle était à côté. Mais ça pèse tellement fort, l'altitude. Faut tellement que tu marches lentement que c'est 45 minutes avant d'arriver.
Puis là, le moment où vous le faites, vous ouais. êtes sur le top, ouais. vous mettez le pied sur ouais. le top, c'est quoi le sentiment?
On s'était tous dit, on va pas pleurer, on va juste être content, là. Mais je me demande qui a pas versé une larme.
C'est ça.
Un peu chaud d'œil en plus, hein?
Non, mais c'est... En direct, tout ce que t'as eu comme difficulté... La nuit, je vous jure, était militaire. C'est surréel. J'ai jamais vécu quelque chose d'aussi surréel et beau en même temps. Tu sais, c'était humain, mais surréel. Là. Qui va te pencher la tête, mettre du sucre pur dans la bouche, hein, puis il faut que tu l'avales avec du coke, là. Mais en arrivant, t'oublies tout. J'ai entendu souvent des femmes qui accouchent dire « Ah, là, je veux pas faire un parallèle douteux, mais tu sais, qui disait tout le mal que tu viens de vivre,
t'es
tu l'oublies. »
T'es prêt à recommencer. Hey. Oh, ouais.
Moi, pendant la montée, j'ai pensé à ma famille, puis je riais tout ça, puis j'étais comme « Sans quoi je me mets, moi, dans la vie? » J'ai un sapristi de problème de me mettre tout le temps dans des défis de même. Rendu en haut, j'étais comme « C'est quand le prochain? »
Oui, c'est pour ça que tu le fais.
T'arrives, puis... Ce que j'ai préféré, c'est de partager cette fierté-là avec les gens avec qui j'ai monté, avec ceux pour qui ça a été difficile. Il y en a une qui a eu besoin d'oxygène. Elle s'est rendue, elle est arrivée une demi-heure peut-être plus tard ou 20 minutes. On perd la notion du temps parce que sur le top, tu peux être là 15 à 20 minutes.
C'est ça, je me demandais. Pas longtemps, hein, à cause
non,
de l'altitude.
Non, pour descendre le plus rapidement possible. Puis,
dormez-vous?
Non!
Quand vous redescendez...
Cette journée-là, là, on a dépassé le plus de 30 heures sans dormir, le plus de 15 heures sans manger, à part nos collations. Tu sais, je me rappelle, je mangeais ce sommet une fois de temps en temps pour dire, c'est de l'énergie, t'as pas le choix, mais avoir mal aux dents comme ça, puis avoir mal à la bouche, tu sais, de pression là, sur ton corps. Mm-hmm. on redescend pendant 4 heures, puis c'est toute une descente, là. Tu peux faire du ski, à la limite, t'as l'impression que tu fais du ski tellement que c'est dans la roche, mais aussi un genre de sable qui est très mouvant, là. Puis après, t'arrives au premier camp, le dernier où t'as dormi, finalement. On te dit, t'as 1 heure, tu repacks ton duffel bag avec ton sleeping, puis tu repars pour quelques heures pour te rendre à l'avant-dernier camp parce que tu dois baisser en altitude le plus rapidement possible. Ils ont essayé, je pense, ils nous expliquaient, là, de dormir au premier camp avec des groupes, mais souvent, c'est là que les gens commençaient à pas bien aller. Après le sommet,
okay.
En dormant, il y avait un impact très fort avec l'altitude, fait qu'il faut que tu combattes ton mental, puis tu dis, mais petit sommet... Mais je dois continuer à descendre, puis c'est la vie, puis c'est éphémère, cette souffrance. Mais je vous jure qu'il n'y a rien qui vaut cet accomplissement-là. Même si c'est une semaine, malgré 1 an de préparation, il n'y a rien qui vaut les étoiles dans les yeux de tes collègues qui sont là, tous pour une raison différente. Il y en a qui ont traversé des divorces, il y en a qui ont traversé des épreuves difficiles, qui ont eu des deuils, qui sont là pour leur propre santé mentale, pour leur propre accomplissement. Tout ça est mélangé au sommet. Puis tout le monde est comme fier de soi, mais extrêmement fier du groupe. Je pense que c'est un des plus beaux moments de ma vie.
Hey, Pascal, une belle touche finale.
Et oui, puis le pire, c'est que, mon Dieu, il faudrait qu'on fasse 8 podcasts. J'ai tellement de questions, on dirait, qui me restent en tête. Écrivez-y si vous en avez.
Oui, ça va faire plaisir.
Trouvez-la sur les réseaux sociaux. Pascal, merci d'avoir partagé ça avec nous. Oui. Si vous venez d'arriver, on a fait la partie 1 du récit de Pascal sur son voyage en Afrique, Kilimanjaro, hier. Partie 2 qu'on a fait aujourd'hui. Fait que merci d'être venu t'asseoir dans l'Open Mic.
Merci pour l'invitation, ça me touche vraiment.
Bien, regarde, vraiment. on pouvait pas le faire.
Vous me permettez, en fait, de garder ça dans les... Ouais. Ouais. De garder ça quelque part.
Je trouve ça beau.
Merci.
Au retour, on se clenche des nouveautés musicales et quelques nouvelles. Le Point Max.